BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer.
L'avenir a de nombreux domiciles, mais sa résidence principale est sans doute ici dans les blockchains et les cryptos, les pros, les cryptos à domicile. Chaque vendredi, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver. Nos NFT sont présents, fidèles au rendez-vous, nos talents non fongibles du vendredi. Ils nous rejoignent pour condenser l'actualité de la semaine. Owen Simonin, avec nous en plateau d'ailleurs cette semaine, Owen. Il est le fondateur de la chaîne YouTube Asher, également à la tête de Meria. Bienvenue Owen, on est ravis de vous retrouver. Et cette semaine, pour nous accompagner, Stanislas. Stanislas Barthélémy aussi nous accompagne. Venez Stanislas. Vous êtes le bienvenu en plateau. Stanislas Barthélémy, senior manager crypto et web 3 pour KPMG. Salut Stanislas. Welcome. Asseyez-vous messieurs. Mettez-vous bien confortable et à l'aise. On va rester à vos côtés et ensemble pendant plus d'une vingtaine de minutes. Vincent Gann aussi, notre spécialiste des cours et des courbes des cryptos, est avec nous. Bonjour Vincent.
Bonjour Guillaume. Bonjour.
Analyste crypto indépendant, analyste technique de ces cryptos et de leurs cours, leurs courbes, leur potentiel. Le cours du Bitcoin, Vincent, cette semaine a donc dépassé les 38 000 $. Sa capitalisation a dépassé celle de l'action Tesla. Techniquement, le marché doit-il maintenant marquer une pause ?
Oui, effectivement. Alors, Bitcoin était déjà leader au sein de toutes les classes d'actifs sur les 9 premiers mois de l'année, avec notamment une nette surperformance sur le marché d'action. Et puis, il est parvenu, fin octobre, à faire sauter un verrou technique qui était important. Le niveau des 32 000 $, c'est le niveau sous lequel on a passé tout l'été. Et c'est le dépassement de cette résistance qui a permis l'accélération à 38 000 $. Alors, je vais préciser ce que vous venez de dire. Avec une capitalisation boursière de plus de 700 milliards de dollars, Bitcoin, qui n'appartient à aucun marché centralisé, occupe maintenant la 11e place mondiale et effectivement a dépassé de pas grand-chose de l'action Tesla et se situe pas loin des GAFAM. Alors, c'est un parcours impressionnant. Maintenant, je pense en effet que sur un plan technique, le niveau des 38 000 $ va permettre au marché, enfin, va déclencher une pause. C'est d'ailleurs ce qui a commencé déjà depuis 24 heures. Pour un certain nombre de raisons, 38 000 $, on s'en souvient, c'était le seuil de décrochage du mois de mai 2022. À l'époque, c'était la chute du stablecoin Terra de Luna. C'était aussi une phase d'accélération de la politique monétaire restrictive de la Fed et donc un gros seuil de décrochage technique. C'est aussi à peu près les deux tiers de retracement du précédent bear market lorsqu'on applique une échelle logarithmique. Alors moi, je vois deux hypothèses techniques. Soit le marché marque une pause entre 35 et 38 000 avant d'aller chercher les 40 000 $, 42 000 $. Soit il propose une correction plus profonde. L'analyse de la carte de liquidité montre qu'il y a beaucoup de stops de protection sous 35 000. Donc si on retombe sous ce niveau, c'est possible que le marché revienne tester 31-32 000 avant, dans un second temps, d'aller chercher les 42 000. Voilà, ce sont mes deux hypothèses techniques, cher Guillaume.
Et donc, vous nous le disiez, c'est spectaculaire, on peut quand même le répéter, si Bitcoin était une action cotée en bourse, ce serait la 11e plus grosse action, la 11e plus grosse capi mondiale. Waouh, ça monte. Et donc, Bitcoin qui vient de doubler, de dépasser Tesla. Un mot rapide sur les altcoins, les autres cryptos. Est-ce qu'elles vous semblent à même de prendre la roue du Bitcoin dans son chemin haussier ?
Alors, le fait... En tout cas, sur les 9 premiers mois de l'année, c'était pas vraiment le cas. C'était vraiment Bitcoin qui était seul au monde, même dans son propre écosystème. Maintenant, il y a eu une modification de tout ça lorsque les 32 000 $ ont sauté. Je dirais que ça a déclenché ce que moi j'appelle une pré-saison des altcoins. Alors, ça dépend, on n'est pas tous d'accord sur ce sujet au sein des chartistes, mais pour moi, une vraie saison des alts, c'est lorsqu'on a un effondrement vertical de la dominance du Bitcoin, qui d'ailleurs, dit en passant, commence à reculer sur le début de la semaine. Donc, je pense qu'on est dans une pré-saison des alts. Un certain nombre de jetons ont déjà démarré, clairement, ont validé des renversements aussi de long terme. Mais voilà, on n'est pas encore dans une vraie saison des alts. Donc, tout ça pour dire que le meilleur reste à venir. Et moi, ce que je retiens sur ce sujet, sur les alts, c'est que je pense que cette semaine, on a un point bas majeur du rapport relatif entre Ethereum et Bitcoin sur la paire ETH-BTC. Je pense que le point bas est fait et ça, c'est très marquant sur l'ensemble de la semaine.
Merci Vincent de nous avoir accompagnés. Merci Vincent Gann, analyste technique indépendant, régulièrement à nos côtés dans les pros des cryptos. Tout de suite, les titres de cette émission hebdomadaire. On va parler des ETF Bitcoin. La SEC aurait ouvert les négociations avec Grayscale pour la conversion de son GBTC en ETF spot sur le Bitcoin, ce qui serait donc bon signe sur la validation à venir de ces ETF spot Bitcoin. On va en parler dans un instant. On évoquera aussi BlackRock qui envisage un ETF spot aussi sur Ether désormais. Et puis Nouriel Roubini qui semble désormais se convertir au crypto, lui qui jusqu'ici les méprisait, peut-être les détestait même. Eh bien, Nouriel Roubini lance un token, lui qui a toujours dit pique-pendre des cryptos. Alors qu'Elon Musk, au contraire, confirme qu'aucune de ses sociétés ne lancera le moindre token sur une crypto. On parlera de ce chassé-croisé entre l'économiste Nouriel Roubini et le milliardaire Elon Musk. Sans oublier, si on a le temps à la fin, peut-être on verra le procès de Sam McManfred, même s'il ne s'est rien passé de cette semaine, puisqu'il a été, accusé des 7 chefs d'inculpation. C'était il y a maintenant une grosse semaine et le verdict n'est attendu qu'au mois de mars. Mais on essaiera de tirer quand même quelques enseignements de ce procès. C'est votre machine à condenser le temps à refaire l'actu de la semaine jusqu'à 15h30 quasiment. C'est parti.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Ils sont là, nos deux pros, donc Stanislas Barthélémy pour KPMG. Salut Stanislas, et Owen Simonin à la tête de Meria. Vous êtes en forme, messieurs ?
Très en forme.
Autant que le Bitcoin, quelle semaine quand même. Il aura franchi donc le Bitcoin, la barre des 38 000 dollars cette semaine, pour la première fois depuis l'éclatement de l'affaire du scandale Terra Luna. Et on va parler des ETF Bitcoin dans ce contexte. Il semble que les ETF Bitcoin, mesdames, messieurs, arrivent. En tout cas, ils approchent. Le train accélère, les jours qui viennent pourraient être importants pour leur approbation. Une fenêtre de validation dans les tout prochains jours est en train de se dessiner. Stanislas, on peut y croire ?
On passe de spéculation en spéculation, et là, la grande spéculation, c'est de dire quand l'ETF sera validé par la SEC. Alors, ce qui motive en partie la hausse du Bitcoin, c'est de se dire quand ça va se faire. Et là, il y a des analystes qui expliquent qu'il y a une petite période de quelques jours où la SEC n'aurait pas de commentaires sur le dossier de BlackRock, mais sur d'autres. En réalité, il y a une foultitude de dossiers par-delà BlackRock, de la part de managers d'assets qui sont aussi gros que BlackRock. Je pense à Fidelity notamment. Et le fait qu'il n'y ait pas de commentaires sur ces dossiers de la part de la SEC, ça pourrait créer une forme d'acceptation généralisée. Alors ça, c'est la version, on va dire, la plus optimiste de ce qui se passe. In fine, quand on regarde le taux de confiance de la part des analystes, je pense à Eric Balchunas ou même Seyfarth, qui connaissent très bien le sujet des ETF aux États-Unis, eux, ils expliquent qu'il y a 75% de chances que ça se fasse avant fin 2023 et qu'il y ait 95% de chances que l'acceptation des ETF spot se fasse en 2024. Donc on est plutôt confiant sur le fait que ça se fasse. Maintenant, c'est quand ? Donc il faut peut-être aussi imaginer qu'il y ait quelques micro-déceptions ou du moins des acteurs qui jouent un peu trop le bon timing, alors que la tendance est plutôt positive, évidemment.
Et puis un signe de plus, la SEC apparemment a ouvert des négociations avec Grayscale pour la conversion de son GBTC en ETF spot sur le Bitcoin. Donc ça voudrait dire qu'effectivement, elle s'apprête sans doute à valider ces ETF.
C'est un des signaux avant-coureurs tout à fait de changement de pied de Gary Gensler et de la SEC vis-à-vis justement de ce fameux ETF spot.
Alors là, on parle d'ETF spot sur le Bitcoin et on en parle depuis des mois et des mois. Mais il y a aussi de plus en plus de projets sur l'autre grande crypto, à savoir l'Ether. BlackRock, le géant BlackRock, semble envisager, Owen, la création d'un ETF spot sur l'Ether.
Tout à fait, et ils ont d'ailleurs rempli tout ce qui était nécessaire pour pouvoir faire cette demande. Ça a été confirmé hier soir, ce qui a d'ailleurs permis à Ether de gagner un petit peu en force face à Bitcoin. Ether était sur un plus bas face à Bitcoin depuis très longtemps, et ça lui a permis de récupérer un petit peu d'énergie puisqu'il a touché les 2 100 $ hier. Il statue actuellement à 2 080 $ pendant qu'on se parle. Et c'est pas vraiment surprenant dans le sens où quand on fait un ETF, c'est naturellement un produit, on veut avoir du volume sur ce produit, et donc on veut avoir des clients. C'est donc la demande toujours qui va driver ces différents produits et ces structurations de produits. Bitcoin représentant à lui seul actuellement 53-54% du marché des crypto-monnaies. Ether représentant à lui seul une grande partie du reste de la valorisation. C'est naturel d'avoir une demande client, sachant qu'en plus Ether a une proposition de valeur bien différente de Bitcoin et reste basée sur la même entre guillemets technologie, la blockchain. C'est donc naturel d'avoir des clients qui veulent se positionner sur les crypto-monnaies et qui veulent quand même diversifier un petit peu leur position, même si Ether est un poisson pilote de Bitcoin dans sa valeur. En tout cas, ça a été le cas dans le précédent cycle.
Il est économiste et avait prévu en avance la crise Lehman. Depuis, il s'est exprimé aussi sur les cryptos. Et pour lui, je le cite, les crypto-monnaies sont la plus grande escroquerie de l'histoire. C'est une accumulation de fraudeurs, une pelletée de criminels. Les cryptos sont des bullshit currencies. Cet économiste renommé a même rejeté la technologie blockchain dans son ensemble en disant qu'elle ne valait pas mieux qu'une feuille de calcul. Cet économiste, c'est Nouriel Roubini. Eh bien, Nouriel Roubini, ce hater des cryptos, change de bord. Il lance finalement, Owen, son propre token, le token Atlas. C'est quoi ce token ? Et en quoi ce token se différencie-t-il au point de pousser Nouriel Roubini à s'intéresser aux cryptos ?
Alors revenons rapidement quand même sur Nouriel qui en décembre 2000, enfin Nouriel Roubini quand même, qui en décembre 2022 avait précisé attention, il faut s'attendre à un bain de sang devant nous, non pas ce qui vient de se passer, puisqu'en décembre 2022 les crypto-monnaies avaient déjà perdu une partie de leur valeur. Il avait annoncé un gros bain de sang à venir. Depuis, les crypto-monnaies ont pris 100% en moyenne de hausse. Il avait bien précisé également que tous ceux qui en achetaient étaient des idiots, des abrutis, hein. C'était vraiment le terme qui avait été utilisé, c'était assez fort, notamment les particuliers qui achetaient des crypto-monnaies. Aujourd'hui, Nouriel Roubini propose sa crypto-monnaie et propose aux gens d'en acheter, évidemment.
Incroyable.
Bien sûr, sinon ce ne serait pas drôle. Sa crypto-monnaie s'appelle Atlas Climate Token. Et pour le coup, elle reprend tous les buzzwords. De l'intelligence artificielle avec du machine learning, évidemment. Une considération forte du climat et de ses changements. Et la technologie de la blockchain, bien entendu. Évidemment, ça passe pas. Ça passe pas, ça plaît pas. Surtout qu'on s'adresse aux personnes qu'on a stigmatisées un peu avant pour leur comportement et on leur demande d'acheter une crypto-monnaie. Mais c'est pas tout. Cette crypto-monnaie a été construite sur la Binance Smart Chain, d'accord? Donc c'est une blockchain qui est permissionless. Hein, n'importe qui peut venir créer sa propre crypto-monnaie. Et parce qu'ils ont utilisé cette technologie, ils ont annoncé Binance en partenaire sur leur site internet. Et ça n'a pas plu, encore moins à la communauté et encore moins à son fondateur, Sisi, qui s'est empressé de rebondir sur cette information.
Pourquoi ça lui a pas plu à Sisi? Comment est-ce qu'il a réagi, effectivement, Stanislas?
Et comme toute personne de l'écosystème, quand on est insulté, ça fait rarement plaisir. Et derrière, d'avoir ce logo sur le site de Nouriel Roubini, ça a créé quelques tweets vengeurs de la part de Sisi. Qu'on peut comprendre aussi parce qu'une ancienne personne, un ancien employé de Binance est aussi dans le projet. Donc j'ai envie de dire que ça fait doublement pas plaisir pour CZ. Et c'est vrai que c'est assez cocasse quand même de la part de Nouriel Roubini de faire ça parce que son token, il est bien sur une blockchain qui a son propre jeton. Donc on est sur quelque chose d'assez surprenant et il crée un stablecoin avec des real world assets.
C'est ça, une volonté de détecter la volatilité de certains actifs et de les sélectionner pour avoir le meilleur rendement possible. Enfin, c'est, je vais être totalement franc, je me suis bien concentré sur le truc, je comprends pas totalement la proposition de valeur. Et en attendant, ça s'adresse évidemment aux personnes qui se sont senties insultées dans le passé. Donc ouais, en tout cas sur la communication et sur la façon de faire, ça n'a pas été bien amené. Ouais.
Son image publique en prend un coup. Il n'y a pas que la partie crypto aussi. Il veut faire un ETF avec le même acabit. Il essaye de proposer différents supports un peu pour tout le monde. Après, à voir comment ça va fonctionner. Ah,
lui qui disait pique-pendre des cryptos et qui là se lance dans cet univers en créant un token, la communauté pourrait s'en réjouir, non? On pourrait dire, ah c'est super, Nouriel Roubini finalement l'on voit. Je n'entends que du négatif.
Il y a un truc qui est certain, c'est que c'est une personne de plus qui retourne sa veste. Mais maintenant, ça commence à être une habitude dans le monde de la crypto-monnaie. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, même la technologie de la blockchain et ce qu'on peut en faire, ça reste un support tech, une façon de gérer la donnée. On doit l'approcher avec une neutralité technologique et même si on n'aime pas tous ses usages, on va bien finir par en trouver un qu'on trouvera utile.
L'anomalie maintenant, c'est de détester la crypto. Avant, c'était l'inverse.
C'est drôle quand même. Hein.
Prenez-vous des yeux pour des réalités quand même, tout le monde. Non, mais c'est vrai, ça avance, effectivement. Oui. Les pros des cryptos, non, mais bien sûr. Et on s'en rend compte aussi chaque semaine ici dans les pros des cryptos. Votre machine à condenser une semaine d'actualité en quoi 20-25 minutes. C'est le moment de notre grand jeu, la question crypto qui claque. Oui, c'est parti. Elon Musk, l'évolution de son rapport aux cryptos ces derniers mois vous rassure-t-elle ou vous inquiète-t-elle, Owen?
Elle me rassure.
Elle vous rassure.
Moi, elle me rassure.
Stanislas, l'évolution du rapport d'Elon Musk aux cryptos ces derniers mois vous rassure-t-elle ou vous inquiète-t-elle?
Pareil, je souffle. Ça va mieux.
Ça va mieux? Il vous rassure là, Elon Musk? Personne ici n'a la bonne réponse. Elle dépend de chacun. Chacun aura son propre point de vue. Sauf peut-être vous, chez vous. Si vous connaissez intimement Elon Musk, vous savez peut-être s'il faut s'inquiéter ou se rassurer de son rapport aux cryptos. Dites-le-nous en commentaire. Réagissez si vous savez. Et si vous le connaissez. Tout ce qu'on sait, nous, ici, c'est que c'est le monde à l'envers. Nouriel Roubini crée son token, mais Elon Musk, le plus crypto-friendly des milliardaires, a l'air, lui, de prendre ses distances vis-à-vis des cryptos. Il a confirmé, en tout cas, qu'aucune de ses entreprises ne créerait jamais un token de crypto-monnaie, alors que Nouriel Roubini, lui, crée son token. Ni Tesla, ni SpaceX ne créeront de token de crypto. Comment l'interpréter, Stanislas?
Et si on fait l'exégèse maintenant des positions de notre ami Elon Musk après celle de Nouriel Roubini, c'est d'abord une acceptation de Bitcoin pour acheter des Tesla. Ensuite, l'arrêt, en quelque sorte, de ces bitcoins au motif du « c'était pas bon pour la planète », hypothèse qui est quand même un peu battue en brèche aujourd'hui par, on va dire, de grands groupes et de grands noms. Et en parallèle, un jeu un peu, je trouve, un peu macabre avec le Dogecoin, en disant c'est une bonne crypto-monnaie parce qu'elle est pas chère. J'ai toujours pas trop compris quelle était l'idée derrière ça. Et après, il a pris des positions aussi avec son family office. Mais l'évolution est plutôt bonne. C'est qu'aujourd'hui, maintenant, il parle un peu moins de Dogecoin. Et quand il dit « je ne ferai pas de crypto avec mes différentes sociétés », tant mieux, on n'a pas besoin de crypto. À la rigueur, il peut utiliser cette technologie pour faire une sorte de point de fidélité. Pourquoi pas ? Mais ça n'a pas la valeur, entre guillemets, spéculative. On ne va pas l'échanger sur les plateformes. Ou alors, le bon support pour ces sociétés-là, ça existe déjà, ça s'appelle les actions. Autant acheter des actions de ces sociétés-là quand elles sont cotées. Et donc, je trouve ça plutôt sain pour lui de dire ça. Et après, il y a la vision sur Twitter renommée en X d'en faire une sorte de super app, c'est-à-dire de plutôt que d'avoir un réseau social, de faire une petite partie financière où on pourrait échanger de la valeur, et là pourquoi pas utiliser des stablecoins, Bitcoin ou les cryptos qui existent déjà. Donc plutôt rassurant.
Owen.
Puis après on a le point de vue communautaire et le point de vue du régulateur. Le point de vue communautaire où on a vu Elon Musk arriver quand toutes les crypto-monnaies explosaient et qu'il faisait l'appui et le beau temps, dès qu'il disait quelque chose de bien ça explosait, dès qu'il disait quelque chose de mal ça perdait de la valeur. À force de donner que des paroles, naturellement, ça vient diminuer sa valeur, ça la dilue, et aujourd'hui, le fait qu'il aime ou qu'il aime pas, ça affecte plus autant le marché qu'avant. Et c'est quand même quelque chose d'important de savoir qu'une personne sur un réseau va avoir moins d'impact sur le cours d'une monnaie. Crypto-monnaie ou crypto-actif, selon la personne qui les nomme. Et la deuxième chose, c'est le côté régulateur. Beaucoup de gens disaient, oui, c'est sûr qu'il achète avant, il en dit du bien, il revend après. La réalité, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça quand on est une personnalité exposée comme Elon Musk. Si on s'amuse avec les marchés financiers, on peut le payer très cher. Et le régulateur peut venir nous sanctionner très fortement. Plus le temps avance, plus c'est cadré, plus c'est régulé. Le délit d'initié, on fait pas ce qu'on veut non plus avec. Et les sanctions sont très fortes, surtout pour un chef d'entreprise qui a très gros à perdre dans d'autres domaines que celui de la crypto-monnaie. Donc bon, le fait qu'aujourd'hui il explique et il veut le rassurer en disant nos structures n'ont pas prévu d'en faire, je ne vois même pas le sujet en réalité, si ce n'est que on n'a pas besoin de faire une crypto-monnaie partout, et quand on en fait une, elle doit avoir une utilité et on doit bien la réfléchir et pas juste mettre de la blockchain pour mettre de la blockchain.
Qu'est-ce qu'il nous disait Vincent Gann tout à l'heure, que la capitalisation du Bitcoin dépasse désormais celle de Tesla? Oui, puisqu'on évoquait Elon Musk, effectivement.
Il faut plutôt rapporter ça à l'or. Quand on regarde les cours de l'or et la capitalisation de marché, c'est à peu près 12 à 13 000 milliards de dollars.
Tout à fait.
Donc c'est plutôt ça, le bon comparatif.
L'adoption des cryptos, elle bute encore un peu malgré tout, l'adoption des cryptos. C'est de plus en plus grand public, mais pas encore complètement, c'est vrai. Je vous donne un exemple. L'été dernier, plusieurs amis avec qui je passais les vacances m'ont demandé comment on fait pour investir en crypto et pour avoir des cryptos. Bon, pour simplifier l'accès aux cryptos, on a une initiative de plus là, c'est CoinHouse qui dévoile un compte euro avec IBAN français en l'occurrence. On n'aime pas ici faire de la pub, c'est pas le sujet. Mais enfin, on s'intéresse aux choses intéressantes. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes à dire sur cette initiative de CoinHouse ?
C'est une bonne nouvelle pour CoinHouse et aussi pour l'écosystème. Je m'explique. C'est-à-dire que quand aujourd'hui on veut investir dans la crypto, ce que vous avez vécu, mais ce qu'on vit avec nos proches aussi, les envoyer sur des plateformes qui sont pas faciles d'accès, qui sont pas faciles d'usage, et même sur des plateformes qui sont nouvelles et qui n'existent que par les cryptos, ça peut faire un peu tâche pour certains investisseurs. C'est un peu le sens de l'étude qu'on a fait avec l'ADAN, KPMG et l'ADAN, c'est de voir qu'il y avait 25% des Français qui étaient intéressés par investir dans la crypto, mais que les acteurs crypto-actifs pouvaient faire peur. Et donc l'idée derrière ce compte euro, qui à mon avis va être renouvelé ailleurs, c'est de reposer sur des infrastructures un peu du monde traditionnel et bancaire. En l'occurrence, CoinHouse ne fait pas ça en son nom propre, ils font ça avec la société qui s'appelle Trésor, qui appartient à Société Générale et qui permet de faire ce qu'on appelle du banking as a service, c'est-à-dire d'octroyer pour le compte de tiers des comptes en euros avec un IBAN et des comptes qui appartiennent à la personne. Ce qui donne beaucoup plus de confiance quand on va envoyer de l'argent sur son compte, donc là en l'occurrence chez CoinHouse, mais ça pourrait être le cas avec d'autres boîtes, alors qu'avant c'était un envoi, je schématise, mais au compte bancaire de la société, et les fonds étaient plus ou moins mis en commun avec les autres. Et donc c'est une bonne nouvelle, ça montre un peu toujours ce caractère d'hybridation. Une société comme Trésor, c'est la première fois qu'ils vont dans ce domaine-là, ce qui est plutôt bon signe.
Et c'est intéressant de voir aussi, oui, que certaines blockchains commencent à proposer des IBAN derrière leurs clés publiques. Alors certains trouvent ça très innovant et très intéressant, et d'autres disent que on s'éloigne quand même du côté décentralisé. Donc il y a toujours des courants de pensée différents vis-à-vis de ces produits, mais pour ceux qui veulent une sécurité et qui veulent justement avoir une valeur en euros sur leur compte, c'est évidemment quelque chose de très utile.
On est ensemble en direct sur BFM Business, rediffusion des pros des cryptos chaque vendredi soir à 21h30, la chaîne YouTube BFM Crypto aussi, à laquelle vous pouvez vous abonner. Puis si vous souhaitez suivre au quotidien l'actualité crypto, bien sûr, Amaury de Tonquédec et ses experts du lundi au jeudi à 15h dans le club BFM Crypto. On va parler de gens qui rient et gens qui pleurent. On parlera dans un instant d'une mauvaise nouvelle. D'accord, ok. D'abord la bonne nouvelle, les entreprises crypto se développent. Ah, c'est mieux. Et Kraken franchit, ils sont en forme en régie. Et Kraken franchit donc une étape, étape de développement. Kraken envisagerait de créer son propre layer 2 d'Ethereum.
Tout à fait. Alors, on n'a pas beaucoup d'informations techniques sur ce qu'ils veulent faire. C'est la tendance. On sait que Coinbase l'a fait également. Pour le coup, un layer 2 basé sur Optimism, hein, qui est également un layer 2 d'Ethereum et qui va utiliser ce qu'on appelle les Optimistic Rollup. Pour faire très simple, le concept, c'est de gagner en scalabilité, de pouvoir aller beaucoup plus vite quand on va traiter des transactions, de faire payer des transactions beaucoup moins chères, mais également dans vie privée, c'est-à-dire la protection des données que l'on va donner à la personne en face de nous. La blockchain est transparente, elle se doit de l'être parce qu'on doit pouvoir vérifier son intégrité et le fonctionnement entier de son réseau. Par contre, le but n'est pas non plus de donner trop d'informations au bloc d'après. On doit juste vérifier la cohérence de toutes ces transactions. En l'occurrence, c'est ce qu'a voulu faire Coinbase et ça a fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit parce que le Layer 2 de Coinbase, qui s'appelle d'ailleurs Base, est déjà l'un des Layer 2 les plus utilisés. Il fait partie du top 3, si je dis pas de bêtises, derrière Arbitrum, qui est le plus gros. Aujourd'hui, voir une autre plateforme d'exchange, Kraken, qui prend une position et qui veut également développer son propre Layer 2, ça permettra justement, et c'est drôle, mais on va encore dans l'hybridation, de ces sociétés centralisées qui, mine de rien, commencent à proposer des solutions qui sont décentralisées. Et toutes les institutions, à leur échelle, commencent à le faire et comprennent que bon, bah, y a quand même une expertise qui est l'expertise décentralisée. Et même quand on veut pas distribuer celle d'un autre, c'est bien de mettre les mains dans le cambouis, c'est bien de contrôler soi-même et de proposer une solution qui va finalement indirectement se marier parfaitement avec certains services centralisés.
Oui, l'hybridation qui se poursuit. Vous vouliez dire un mot là-dessus, Stanislas ?
C'est qu'il y a un enjeu de revenus aussi. C'est-à-dire que Coinbase, société cotée, ils peuvent espérer plusieurs millions de dollars de frais, voire même dizaines de millions, et ça c'est pas neutre pour une société qui se développe. Et j'ai envie de dire que ce grand mouvement, c'est celui de l'autoconservation. Mais avant, c'était compliqué de le faire soi-même, et aujourd'hui, avec différentes technologies comme la MPC, on peut avoir un portefeuille crypto avec la même facilité d'usage qu'avoir un compte Gmail par exemple. Et c'est ça qui change la donne et qui fait que peut-être on aura de plus en plus d'utilisateurs sur ces chaînes. Donc cette hybridation entre un acteur centralisé qui en plus a vérifié le client, le KYC, et en restant dans cette même application qui peut aller picorer des bons applicatifs de finances décentralisées par exemple pour déposer de la valeur, générer des taux d'intérêt, etc.
C'est un truc très intéressant parce qu'on regarde beaucoup la TVL. Quand on regarde une blockchain, on regarde le volume total de valeur qui est loqué sur ce réseau-là. Ça donne beaucoup d'informations sur la blockchain si elle est utilisée, s'il y a beaucoup de valeurs financières sur ce réseau. Et c'est drôle, mais le monde a évolué comme ça. Au début, on vendait du hardware, puis ensuite on vendait du software. Et puis maintenant, on n'essaye même plus de vous vendre un ordinateur ou un logiciel. On est carrément votre propre banque. Laissez dormir votre argent chez nous. Quand vous achetez une voiture, on vous propose le prêt qui va avec. Quand vous avez une application mobile, la marque vous propose carrément d'avoir des systèmes de paiement de... Maintenant, on est proche des capitaux. Et indirectement, la blockchain...
Et on les rend captifs.
Et c'est ça. Et c'est sur ces capitaux. Donc je pense que c'est également un moyen de rester proche des capitaux de leurs clients qui repartent dans des réseaux décentralisés. Pourquoi pas le leur ? Qui sera peut-être pas décentralisé d'ailleurs, on n'a pas encore tous les détails.
Kraken donc envisagerait créer son propre layer 2 d'Ethereum. Et parallèlement, quand même, des nouvelles encore négatives malgré tout dans l'écosystème. On en disait un mot à l'instant, signe qu'on est encore dans l'hiver crypto. Avalabs, la maison mère d'Avalanche, se sépare à son tour d'une part importante de ses employés. Oui, Stanislas, l'hiver crypto, malgré tout, continue.
Il y a toujours un décalage de temps entre quand une société a fait son année et qu'il y a des pertes ou une volonté de réduire la voilure. Ça se fait dans le temps et en l'occurrence, les marchés redémarrent. C'est concomitant à ce que les marchés redémarrent, mais cette décision a été nécessaire, a été prise avant. Alors ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise nouvelle. Hein. C'est important de savoir, entre guillemets, scier la branche plutôt que de laisser la société mourir. Donc ça, c'est vrai pour toutes les sociétés crypto. On parlait de Coinhouse tout à l'heure. Coinhouse a aussi annoncé, aussi Ledger. Donc ça, c'est tout à fait normal. Après, pour Avalabs, il y a quand même une situation qui est liée aussi à leur activité, celle de promouvoir l'utilisation de la blockchain Avalanche. Et donc là, on est dans un contexte d'une profusion de différentes blockchains de type Layer 1 qui essayent d'être en concurrence les unes avec les autres. Et donc se tailler quelque part la part d'union dans ce marché, c'est compliqué. Et donc ça l'est aussi pour Avalanche. Et troisième chose, il y a aussi, est-ce que le devenir d'Avalanche est bon techniquement ? Je ne parle pas de prix encore une fois. C'est l'économie d'une blockchain qu'il faut analyser et on voit qu'elle génère pas assez de frais pour arriver au même niveau que la dépense en jetons qui est réalisée pour permettre de le sécuriser. Et donc, si on met un peu ces trois raisons-là, ça explique qu'ils réduisent la voilure.
Merci messieurs. Les pros des cryptos chaque vendredi. Owen Simonin, il était à la tête de Meria et de la chaîne YouTube Asher. Combien d'abonnés Owen maintenant?
On a passé les 630 000. Ça repart. Tout doucement, mais ça repart.
Ah, c'est un signal peut-être, effectivement. Stanislas Barthélémy, merci Stan d'être passé
merci.
Nous voir. Senior Manager Crypto Web3 pour KPMG. Bon week-end messieurs. Rediffusion donc ce soir à 21h30. Et bien sûr, les pros des cryptos sont disponibles tout le week-end. Allez-y, parlez-en sur notre chaîne YouTube BFM Crypto.
BFM Business, BFM Crypto, les pros.